Sébastien Hémet.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Sébastien Hémet.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, Appel sur l'actualité jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, vous le savez, c'est le débat. On parle aujourd'hui de la fin du forum de Bangui en Centrafrique. Une clôture entachée de violence, après l'énoncé des conclusions des leaders anti-Balaka n'ont pas caché leur colère, affirmant que leurs revendications n'avaient pas été prises en compte. Des tirs ont ensuite éclaté devant l'assemblée de transition. Les négociations débutées le 4 mai ont néanmoins abouti à plusieurs dizaines de recommandations. Anti-Balaka et ex-Séléka ont signé un accord pour le désarmement et la réinsertion des combattants. La transition devrait être prolongée. Bref, quel bilan tirez-vous de ce forum? Que pensez-vous des recommandations? Les engagements pris pourront-ils être appliqués? Vous nous rejoignez au 33 9 693 693 70 ou 09 693 2 fois 70 si vous appelez de France. N'oubliez pas notre email appel@rfi.fr ainsi que nos comptes Facebook et Twitter. Mais avant cela, comme chaque jour, vous le savez, c'est l'heure de vos questions pour mieux comprendre et mieux décrypter l'actualité avec un premier auditeur en ligne. Salé, bonjour.
Bonjour RFI.
Salé, vous êtes à Moundou, dans le sud du Tchad. Vous avez une question concernant Robert Ménard, le maire de Béziers en France.
Ok, le maire de Béziers, Robert Ménard, a fixé des élèves dans sa commune en fonction de leur nom pour connaître leur religion. Mais par la suite, Robert Ménard a nié que ce n'est pas lui qui a donné ces chiffres. Alors je voudrais savoir où a-t-il trouvé ces chiffres et comment s'en défend-il?
Et vous aviez une seconde question, Salé.
Oui, la deuxième question, c'est de savoir quelle est la réaction du Front National par rapport à cette affaire.
Alors pour vous répondre, Raphaël Rennes est dans ce studio. Bonjour Raphaël.
Bonjour Sébastien, bonjour Salé.
Du service France, effectivement. Alors Robert Ménard, rappelons-le, n'est pas encarté Front National, mais il a été élu grâce à ses voix. Il est très proche du parti d'extrême droite de Marine Le Pen. Cette affaire fait polémique depuis plusieurs jours. On ne parle quasiment que de ça, hein, vraiment beaucoup. Ça a commencé le lundi 4 mai à la télévision. Qu'est-ce qui s'est passé, Raphaël Rennes? Qu'est-ce qu'a dit le maire de Béziers?
On est dans l'émission Mots croisés sur la chaîne de télévision France 2. Et on parle de l'immigration, puisque parmi les invités, il y a Robert Ménard, proche, vous l'avez dit, du FN de Marine Le Pen. Et Robert Ménard lâche cette phrase. Dans ma ville, il y a 64,6% des enfants qui sont musulmans dans les écoles primaires et maternelles. Alors sur le coup, ça passe presque inaperçu. Personne ne réagit vraiment, sauf un premier téléspectateur qui, sur les réseaux sociaux, va poser la question. Mais d'où Robert Ménard tient-il ce chiffre, cette statistique? Alors, il faut savoir qu'en France, la loi interdit de procéder à des statistiques ethniques ou religieuses. C'est un délit qui est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Alors, Robert Ménard va être interrogé à nouveau par l'un des journalistes qui se trouve autour de la table et qui a lu la réaction du téléspectateur. Et il va maintenir, ces chiffres sont issus des listes scolaires de la mairie de Béziers. Et pour établir un pourcentage d'enfants, ouvrez les guillemets, musulmans, fermez les guillemets, eh bien, l'ancien patron de Reporters sans frontières s'est basé tout simplement sur le prénom des enfants.
C'est là que le bas blesse.
Et c'est là que le bas blesse. Il y a un tollé de protestation qui va immédiatement enflammer les réseaux sociaux et une bonne partie des milieux associatifs, de la classe politique. Ça va remonter très haut jusqu'à la tête de l'État. Le lendemain, c'était donc mardi dernier, François Hollande est en Arabie Saoudite en visite et il va réagir et parler de procédés contraires aux valeurs de la République. Son premier ministre Manuel Valls estime que ce fichier fait honte au mandat qui a été confié à Robert Ménard. L'extrême droite n'a rien renié de son passé et de ses pratiques, déclare Manuel Valls. Et même dans le camp, à l'extrême droite de l'échiquier politique, dans le camp de Robert Ménard, l'avocat et député Front National Gilbert Collard va condamner fermement cette méthode. La seule voix finalement dissonante, eh bien, pour répondre à Salé, c'est celle du Front National, celle du FN, dont Robert Ménard, hein, vous l'avez dit, ne fait pas partie, mais il en est très proche. Il a été élu soutenu par le FN. Le vice-président du Front National, Florian Philippot, dénonce une polémique totalement vaine. On lui fait un mauvais procès. Il n'y a pas de fichier, assure ce très proche de Marine Le Pen.
Alors, cette affaire n'est pas restée sans suite. Hein. Il y a eu une enquête préliminaire ouverte et Salé voulait savoir comment, en fait, Robert Ménard justifie sa position, ses chiffres, cette affaire.
Alors, contrairement à ce que Salé disait, Robert Ménard n'a pas démenti avoir donné ses chiffres. Il assume d'avoir donné ce chiffre. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, le jour ou le lendemain même de cette émission, il y a une perquisition qui est menée par la police judiciaire, puisqu'il y a une enquête préliminaire qui est ouverte par le parquet de Montpellier, dont dépend la ville de Béziers. Perquisition dans les locaux de la mairie de Béziers et, a priori, rien de trouvé qui puisse établir qu'il y a effectivement eu un fichage des enfants. Le même jour, le maire d'extrême droite est entendu par la police judiciaire. Robert Ménard va répéter qu'il n'existe aucun fichier, ni même de comptabilité des élèves de confession musulmane. Et puis, il y a une autre procédure qui a été ouverte par une association, la Coordination contre le racisme et l'islamophobie. Elle a saisi le tribunal administratif en référé. Alors, pourquoi tribunal administratif? Parce que elle attaque la mairie en tant qu'institution publique, pas le maire en tant que personne. Donc le tribunal administratif est saisi et l'avocat de la mairie de Béziers, devant le juge de ce tribunal, assure que Robert Ménard s'est en fait livré à un calcul approximatif tout seul dans son bureau de la mairie à partir des listes d'élèves de quelques écoles et non pas sur les 6600 élèves des écoles publiques de toute la ville. Le tribunal administratif a rendu sa décision, c'était hier en fin d'après-midi, il a estimé qu'il n'y avait pas matière à condamner sur le plan administratif la mairie, donc, en tant qu'institution publique. Alors, en revanche, Sébastien, l'enquête préliminaire ouverte mardi dernier, elle se poursuit sur le plan pénal, donc directement contre Robert Ménard en tant que citoyen. Avec cette question, est-ce que le fait d'établir un pourcentage d'enfants supposés musulmans à partir de leur prénom constitue ou pas une violation de la loi du 6 janvier 1978, c'est la loi qu'on appelle souvent informatique et liberté en France. Elle interdit, je cite, de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques et religieuses. Le non-respect de cette interdiction est donc puni de 5 ans d'emprisonnement, de 300 000 euros d'amende. Alors effectivement, Robert Ménard dit, il n'y a pas de fichier à proprement parler. Son avocat le répète et le répétera sans doute si un jour il y avait un procès sur le plan pénal. Maintenant, est-ce que le fait d'arriver à un pourcentage aussi précis que 64,6%, est-ce que ça constitue en soi une infraction? Eh ben ça, ce sera au juge d'en décider si ça va jusque devant le juge, mais en tout cas, l'enquête est ouverte.
Affaire à suivre. Merci beaucoup, Raphaël Rennes du service France de RFI. On salue Salé qui était à Moundou et qui nous appelait depuis donc le sud du Tchad. 339 693 693 70. Prochaine question en ligne avec nous. Richard, bonjour.
Bonjour Sébastien Nemeth et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Vous avez des questions concernant les États-Unis et les violences à Baltimore. On vous écoute.
Oui, bien sûr, j'avais suivi sur RFI qu'on avait retrouvé les corps d'un jeune homme noir mort à Baltimore suite à des émeutes qui se sont suivies sur cette ville. Alors, j'avais des questions concernant cela. Quelles sont les causes profondes qui provoquent de telles violences à Baltimore? La deuxième question est la suivante. Comment expliquer qu'il y ait plus de violences à Baltimore que dans d'autres villes?
Alors, pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Thomas Negarov. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste des États-Unis. Freddy Gray, jeune noir, 25 ans, arrestation le 12 avril. Arrestation, il est filmé. On le voit hurlant de douleur. Il est transporté vers le commissariat où il arrive inconscient le 19 avril. Il est mort des suites d'une fracture des vertèbres cervicales lors de son transport par les policiers. Ça entraîne des manifestations après les obsèques, des émeutes, des violences, des pillages, des incendies. La maire instaure le couvre-feu nocturne, le gouverneur déclare l'état d'urgence, on envoie la garde nationale. Le 3 mai, finalement, la maire lève le couvre-feu. On a 6 officiers de police quand même suspendus. Une enquête fédérale est ouverte également, une enquête de la police. Thomas Negaroff, quelles sont les causes des violences à Baltimore? C'est pas n'importe quelle ville quand même des États-Unis.
Oui, alors effectivement, il y a quelque chose d'assez important. D'abord, c'est une très grande ville américaine, hein, 620 000 habitants. C'est une ville qui a tout de même perdu beaucoup d'habitants depuis les années 1970. C'est une ville qui a subi une forme de désindustrialisation extrêmement, extrêmement forte et rapide. Toutes les industries traditionnelles ont quasiment disparu. C'est une ville où il y a un taux de chômage, et c'est certainement une des clés extrêmement élevée. Alors, pas un taux de chômage partout, parce que Baltimore est une ville qui, comme beaucoup de villes américaines, se caractérise par une très grande ségrégation sociale et spatiale. Vous avez au nord les quartiers blancs, bourgeois, etc. et des classes moyennes, en gros, pour aller vite. Et puis vous avez au nord-ouest les ghettos noirs.
C'est une ville qui a subi le phénomène qu'on appelle le white flight. Hein. C'est ça, les blancs sont surtout allés en banlieue et les noirs restaient plutôt en centre-ville. On a une disparité au niveau des quartiers, une disparité raciale.
Oui, c'est ce qu'on appelle la... Oui, effectivement, il y a effectivement les blancs ont quitté cette ville qu'ils considéraient comme dangereuse, à juste titre d'ailleurs. Hein. C'est une ville qui est gangrénée par la drogue. Alors, je sais pas si certains de vos auditeurs connaissent la série The Wire, qui est une formidable série américaine qui se passe à Baltimore, qui est d'ailleurs la série préférée de Barack Obama. Et ben, les saisons se suivent maintenant c'est terminé cette série, mais pendant plusieurs saisons, on a vu l'état de délabrement de cette ville avec la corruption de la police et puis surtout la drogue. C'est une ville qui est vraiment gangrénée par la drogue, et la drogue qui est la conséquence aussi de la crise économique que connaît cette ville. Alors il faut pas oublier que dans le quartier où vivait ce jeune noir, il y a plus de 50% de la population qui est sans emploi. Alors vous imaginez, dans un pays qui aujourd'hui se vante d'avoir vaincu le chômage, avec aujourd'hui 5,4% seulement de chômeurs, on est presque proche du plein emploi, hein. Les statisticiens considèrent que le plein emploi, c'est 5% seulement de chômage. Eh bien, il y a 50% de chômage dans son quartier. Donc voilà, c'est une des clés. Il y a une histoire aussi du racisme aux États-Unis, une histoire du racisme à Baltimore en particulier. Tout cela crée les conditions. Et puis, alors en revanche, ce qui est un peu différent par rapport à un cas comme Ferguson, vous vous souvenez, on avait déjà parlé ensemble de Ferguson, et à Ferguson, on avait montré que il y avait un vrai problème, dans la mesure où il y avait une population qui est largement noire aux deux tiers et une police qui était quasiment entièrement blanche. C'est pas le cas à Baltimore.
Non, on a une maire qui est noire, voilà. Un chef de la police qui est noir, je crois un procureur aussi qui est noir.
On n'est pas dans cette espèce de caricature de Ferguson. Vous avez plus de 45% du corps de la police municipale qui est composé de noirs. Donc il ne faudrait pas être un peu trop simpliste peut-être et voir les méchants blancs contre les gentils noirs. C'est un peu plus complexe. Il y a une situation sociale très dure qui crée les conditions de la violence. C'est toujours complexe à analyser.
Après, mais un terreau dans cette ville de Baltimore qui pose vraiment des problèmes sociaux et entraîne, si je comprends bien votre propos, entraînerait cette violence. Merci beaucoup Richard de nous avoir appelé depuis Kinshasa en RDC. Restez avec nous Thomas Negaroff, puisqu'on a beaucoup de questions concernant cette affaire. Issoufi nous appelle depuis Bamako. Bonjour Issoufi.
Bonjour Sébastien, bienvenue dans la ville de Trois Caïmans.
Merci beaucoup. Donc vous êtes au Mali, vous aviez des questions concernant cette affaire et notamment le président Obama. On vous écoute.
Si. Moi je voudrais savoir quelle a été l'appréciation de ce discours par la communauté afro-américaine et pourquoi le président a-t-il mis tout ce temps pour faire ce discours officiel.
Alors Thomas Negaroff, c'est vrai qu'il y a une semaine, Barack Obama a pris la parole dans le Bronx à New York, il a fait un plaidoyer pour l'égalité des chances. Le 1er mai, il avait demandé que toute la lumière soit faite, et avant cela, il avait appelé la police et la communauté noire à une introspection, il avait même demandé à tout le pays de faire un examen de conscience. Comment les Afro-Américains réagissent aux propos de Barack Obama dans cette affaire?
Alors, votre auditeur Issoufi pose la bonne question, qui est effectivement une question un peu incompréhensible. Comment un président noir américain, dont on imaginait que l'élection avait signifié une Amérique apaisée, post-raciale, etc., peut se retrouver effectivement à la tête d'un pays où il y a la multiplication de faits divers terribles les uns après les autres, semaine après semaine. Alors le discours de Barack Obama, Déjà, il est venu assez tardivement, et comme toujours, alors là, il y a une inflexion, parce qu'il a été extrêmement, vous l'avez dit, un examen de conscience, il a mis les pieds dans le plat, ce qui n'était pas le cas avec les autres affaires, où il était extrêmement prudent, plus prudent, là encore, il a attendu tout de même de savoir, mais finalement, ce que raconteront les historiens de demain sur Barack Obama et la question noire aux États-Unis, c'est d'abord la grande prudence, c'est-à-dire que Barack Obama, depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, a fait preuve, encore une fois, de prudence, il a surtout voulu apparaître comme le président de tous les Américains.
Et oui, c'est pas si simple d'être le premier président noir des États-Unis. Hein.
C'était presque un piège que voulaient lui tendre les blancs républicains, qui n'attendaient qu'une chose, c'est que Barack Obama soit, et c'est l'expression qu'ils employaient, raciste à l'envers, à savoir qu'il ne défende que les Noirs, qu'il soit le président des Noirs et pas de tous les Américains. Donc ça a été compliqué, surtout quand on est président, il faut aussi être aux côtés de la police, des institutions, de la justice. Alors bien sûr, il faut aussi être capable, comme il l'a fait là, de considérer que parfois, il y a des situations intolérables. On se souvenait aussi que Trayvon Martin à Ferguson, il avait dit qu'il pourrait être son fils. Tout cela, effectivement, il y a des petits symboles, mais vous savez, pour répondre vraiment clairement à la question des soucis, la communauté noire américaine, elle est plutôt résignée. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que il n'y aura pas de solution magique qui viendra de la Maison-Blanche, que les faits divers vont se multiplier, et puis ils réagissent de manière de plus en plus individualiste. Hein. C'est fini les années 60-70 où vous aviez des grands mouvements noirs américains, les afro-américains aujourd'hui, ils sont plutôt divisés. Regardez Baltimore, il y a eu quelques manifestations par-ci par-là de soutien, mais globalement, on est resté sur des manifestations dans un quartier de Baltimore, et c'était la même chose avant, avec l'affaire Garner, avec l'affaire Walter Scott. Finalement, on n'a pas de grands mouvements comme on a pu avoir jusque dans les années 80, ce qui marque aussi une certaine manière une communauté africaine-américaine qui est un peu résignée.
Alors ça tombe bien que vous parliez de ça, Thomas ouais. Negaro, parce que c'était la troisième question d'un auditeur, Eric, qui devait nous appeler d'Elista en Russie. On n'arrive pas à le joindre malheureusement, mais je vais me faire son porte-parole. Vous parliez de la résignation de la communauté afro-américaine qui ne croit pas vraiment que la Maison-Blanche va pouvoir faire quelque chose ou changer les choses. Sa question, c'est quelles mesures peuvent prendre Washington et le Congrès? Est-ce que en ce moment, c'est un petit peu bloqué? Barack Obama arrive en fin de mandat, il faut qu'il prépare la suite au niveau des démocrates. Et rappelons-le, il est quand même en minorité au Congrès qui est républicain maintenant. Est-ce qu'il peut faire quelque chose vraiment au niveau national?
C'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut lutter évidemment contre les racines du racisme et des préjugés raciaux. Vous savez, quand un policier blanc, il arrive dans un quartier qui voit un noir, qui est un noir costaud, balèze et grand, immédiatement, il a peur. Il a peur et la peur, elle conduit à la violence parce que aussi, il imagine que le noir en face de lui, il est peut-être armé. Voilà, donc il y a un climat à la fois... Alors, en fait, ce qu'il faudrait, à mon avis, hein, personnellement, c'est peut-être encadrer davantage le port d'armes, lutter davantage contre les racines, à savoir le trafic de drogue, qui est évidemment un facteur de violence extraordinaire dans les quartiers noirs. Tout ça est compliqué. Alors bien sûr, on peut aussi décider de mesures un peu symboliques, comme équiper les voitures de policiers, comme c'est le cas d'ailleurs, hein, de caméras de surveillance, mettre sur chaque policier une petite caméra, etc.
Mais est-ce que c'est pas compliqué ce genre de mesures, Thomas Negaroff, en sachant qu'on est dans un État fédéral et que les polices dépendent des localités? Ça, c'est quelque chose de très ancré dans la culture américaine, que le fédéral n'empiète pas sur le local.
Oui, et puis sur la liberté, effectivement, c'est très compliqué ces questions-là. C'est pour ça que ça sera très très long, très très lent, parce que il faut travailler sur les racines. Après, c'est aussi la responsabilité des blancs américains que de manifester contre cette justice qui est racialisée, cette police violente. Et il y a des chiffres qui peuvent être un peu rassurants, peut-être pour vos auditeurs. Pour la première fois de l'histoire américaine, vous avez plus de 50% des blancs qui considèrent que tous les faits divers qui ont eu lieu, ne sont pas des faits isolés, mais qu'ils traduisent une réalité de la situation des Noirs dans ce pays. Alors qu'avant, on disait, mais non, c'est qu'un cas particulier, c'est que parce que c'est Baltimore, c'est que parce que c'est Ferguson. Donc il y a peut-être une prise de conscience globale. Il faudra attendre aussi l'élection présidentielle de 2016, où peut-être que cette question-là sera enfin au cœur de la campagne. Mais je crains qu'il ne faille attendre encore pas mal d'années pour voir la situation s'améliorer, parce qu'on est au cœur d'un problème très profond, qui est celui du racisme, qui est celui de l'histoire américaine, celui des préjugés raciaux. Et ça se règle le pas avec quelques lois.
Merci beaucoup Thomas Snegarov, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des États-Unis. Restez avec nous, on va marquer une courte pause, puis le journal est dans 10 minutes. Nous débattrons ensemble de la Centrafrique avec la fin hier du forum de Bangui. Des négociations qui se sont terminées par des violences après la clôture, des tirs ont éclaté devant l'Assemblée de transition. Quel bilan tirez-vous de ce forum, de ces engagements? Pourront-ils être appliqués? On se retrouve de l'autre côté du journal, à tout à l'heure.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et paiement mobile.